Lucide Bacré 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, colonie et ton fichier. C'est tout ton vénère, c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mon stachu dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas.
Bonsoir.
Bien sûr, le 102.2, les ondes les plus rebelles de Lyon, Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Aujourd'hui, on va vous parler d'informations locales et on reviendra sur une décision lamentable du maire de Lyon dans un instant.
On passera ensuite à la rubrique nationale pour vous expliquer comment 8 mois avec sursis ont été requis contre un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants.
Ensuite, il y aura une petite rubrique spéciale bris de vitrine, donc avec notamment le FN qui en a perdu sa vitrine.
Et puis on ira du côté de Grenoble qui est où un commissariat a brûlé.
Ensuite, on passera un petit coup de téléphone aux camarades tourangeaux qui se mobilisent contre la fermeture d'un centre d'hébergement de sans-abri qui s'appelle le foyer Albert Thomas.
Et le camarade tourangeau, pour ceux qui ne connaissent pas cet adjectif, habite à Tours, bien sûr. On parlera également d'un sale maire qui est contre les cours d'arabe et qui a même fait intervenir la police municipale dans une école.
Ensuite, dans la rubrique internationale, on vous parlera des émeutes en Algérie qui ont lieu contre la vie chère.
Et ensuite, on vous parlera de Mumia Abu-Jamal. La justice fédérale fait injonction immédiate à l'administration pénitentiaire de Soigny Mounia.
Pour finir avec le traditionnel agenda.
Et tout ça sera rythmé en musique, bien sûr.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous allez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire, monsieur le maire.
Et voilà, de retour dans les studios, on va continuer à vous parler de Gérard Collomb et de ses positions indécentes, notamment quand il s'agit d'héberger des SDF, en tout cas des personnes à la rue. En effet, alors qu'il fait moins 5 degrés dehors, le maire de Lyon s'oppose à la mise à l'abri des personnes à la rue de sa ville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mardi 3 janvier, le préfet a déclenché le plan Grand Froid et un gymnase municipal a ouvert pour permettre la mise à l'abri de 140 personnes. Ce week-end, les températures atteindront les moins 5 degrés. Pourtant, en ce début d'après-midi, alors que l'ouverture d'un deuxième gymnase était annoncée par le préfet, nous apprenons que le maire de Lyon s'y oppose. Faut quand même savoir qu'à Lyon, aujourd'hui, plus de 1500 personnes sollicitent le 115 sans obtenir de solution. Il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants exténués et en danger dehors. Vendredi 30 décembre, une personne SDF est décédée place Bellecour dans la rue. Depuis, les températures ont baissé fortement. Mardi 3 janvier, le préfet a déclenché ce plan grand froid. Pour les professionnels de l'urgence sociale, il y a des limites à l'indécence. Elles sont aujourd'hui atteintes lorsqu'un maire laisse sciemment dormir des personnes à la rue. Parmi eux, des nourrissons, des personnes âgées, handicapées. Hier soir, une famille avec un enfant d'un mois dormait sous une tente dans le 5e arrondissement de Lyon. puisque la loi est bafouée chaque jour par l'État. Il est aujourd'hui question de vie et de mort, et Gérard Collomb s'en moque tout simplement, avec un cynisme à couper le souffle. Du coup, les professionnels de l'urgence sociale condamnent ce refus du maire de Lyon d'ouvrir un deuxième gymnase. Ce gymnase ne constitue en rien une solution pour les personnes. Il ne permettrait même pas d'accueillir toutes les personnes à la rue, mais assurerait, à minima, la survie de 140 êtres humains. Nous en sommes là, début 2017. Du coup, les professionnels de l'urgence sociale se demandent comment Gérard Collomb pourra ajuster sa cravate lundi matin, face à la glace, si une personne vient à décéder à nouveau à la rue dans sa ville. Du coup, voilà, c'était un texte qui a été écrit par le collectif des professionnels de l'urgence sociale, aussi dénommé PUCE, aujourd'hui, et qu'on vous lit pour vous rappeler aussi toute cette indécence vis-à-vis des personnes qui sont à la rue.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
La bêtise n'a décidément pas de limite et la bêtise touche aussi la justice. Alors on va parler d'un procès dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le procès de Cédric Héroux, un agriculteur qui a été jugé pour avoir aidé des migrants. Je le fais parce qu'il faut le faire. Voilà ce qu'a déclaré Cédric Héroux à la barre du tribunal de Nice, où il était jugé mercredi, donc le 4 janvier, pour avoir aidé des migrants près de la frontière franco-italienne. Cet agriculteur revendique des actes politiques. Il dit aussi « Je le fais parce qu'il y a des gens qui ont un problème ». Il y a des gens qui sont morts sur l'autoroute, il y a des familles qui souffrent, il y a un État qui a mis des frontières en place et qui n'en gère absolument pas les conséquences. Cet agriculteur produit des olives et des œufs dans la vallée de la Roya. Depuis le rétablissement des contrôles à la frontière franco-italienne en novembre 2016, à la suite des attentats de Paris, cette vallée est devenue un point de passage obligé pour les migrants souhaitant rejoindre la France. Toutes les nuits, des petits groupes partent de Vintimille par des voies de chemin de fer, les sentiers ou la départementale. Cédric Héroux est poursuivi pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. La justice lui reproche l'installation, en octobre 2016, sans autorisation, d'une cinquantaine d'érythréens dans un centre de vacances SNCF désaffecté à Saint-Dalmas-de-Tende. L'occupation de ce centre, dénoncée avec force par les élus locaux, les Républicains, avait pris fin avec l'intervention des forces de l'ordre au bout de 3 jours. Ce que la justice lui reproche aussi, et peut-être surtout, c'est la revendication au grand jour de son action dans un article du New York Times publié début octobre. Cette revendication a été vécue comme une provocation par les autorités préfectorales et par le procureur de Nice. Le 20 octobre 2016, prétextant l'occupation d'une ancienne colonie de vacances de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende par une cinquantaine de migrants, dont une moitié de mineurs et un collectif d'associations, la police aux frontières, la fameuse PAF, est venue spécialement de Nice pour arrêter Cédric Héroux. C'est le préfet des Alpes-Maritimes lui-même qui a signalé les faits au procureur. 4 autres militants sont également interpellés ce jour-là dans les bâtiments de la SNCF transformés en dortoirs. Tous seront relâchés sans poursuite, seul Cédric Héroux, qui a été identifié comme le leader par un gendarme, est poursuivi par le procureur. Et donc, il était donc jugé ce mercredi 4 janvier pour occupation sans autorisation d'un terrain appartenant à la SNCF et pour avoir facilité l'entrée et le séjour d'environ 200 étrangers, je cite le passage de justice, en les transportant depuis 28 000, puis en les hébergeant. Reconnaissant l'état déplorable des locaux, d'ailleurs ouverts sans dégradation, l'avocate de la SNCF, qui s'est constituée partie civile, réclame quand même 1 320 € d'indemnisation pour rembourser le déplacement d'un huissier de justice et d'un cadre de la SNCF. Les pauvres lapins. En août 2016, Cédric Héroux a déjà été inquiété par la justice pour avoir transporté des érythréennes avant que l'affaire ne soit classée sans suite. Mercredi, la présidente du tribunal s'est étonnée que les deux procédures, dont il a fait l'objet n'aient pas mis un coup d'arrêt à ses actions. Et l'agriculteur lui a répondu en se défendant « Même si vous me condamnez, le problème continuera. » Comme si effectivement condamner un militant allait mettre fin à la situation dramatique des migrants en France. Quelques 300 personnes, dont de nombreux membres d'un collectif d'aide aux migrants, baptisé Roya Citoyenne, s'étaient rassemblées devant le palais de justice pour le soutenir avant le début de l'audience. Le procureur, Jean-Michel Prêtre, a dénoncé l'usage de ce procès comme d'une tribune politique par Cédric Héroux et a requis à son encontre une peine de 8 mois de sursis avec mise à l'épreuve ainsi que la confiscation de son véhicule et un usage limité de son permis de conduire aux besoins de sa profession. Dans le même pays, donc en France, n'est-ce pas, fin 2016, une femme politique, Christine Lagarde, a été reconnue coupable de, je cite, « négligence » pour avoir favorisé en 2008 un détournement de fonds de public de 403 millions d'euros dans le dossier Tapis Adidas. Mais la Cour de justice de la République a décidé de dispenser Christine Lagarde, la présidente du FMI, de peine. En France, la justice considère donc que quand une personne est payée pour faire appliquer des politiques néolibérales aux pays pauvres, hein, ce qui est le cas de la présidente du FMI, et ainsi pousser une partie de leur population au départ, file 400 millions d'euros à un pote, bah, c'est une négligence qui ne mérite absolument aucune peine. Tandis que la même justice décide que quand des inconnus aident comme ils le peuvent des migrants, il s'agit d'un délit qu'il est capital de punir. Le 23 novembre 2016, Pierre-Alain Manoni, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Nice, avait été jugé pour avoir pris dans sa voiture trois jeunes érythréennes blessées qu'il emmenait chez le docteur. Le procureur avait alors demandé 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal de Nice a rendu ce verdict ce matin, donc vendredi 6 janvier, et Pierre-Alain Manoni a en fait été relaxé. On va dire que c'est une micro-bonne nouvelle, mais malheureusement elle ne change pas grand-chose au fait qu'en France, on poursuit en justice celles et ceux qui viennent en aide aux migrants.
C'est un son qu'on a beaucoup entendu en 2016, celui de vitrines qui tombent, de vitres cassées, et c'était souvent le fait des vitrines, alors certes un petit peu de Radio Canu dernièrement, mais surtout des locaux du Parti Socialiste. Et c'est une petite nouveauté de ce début d'année 2017. Cette fois-ci, une vitrine a été vandalisée, ce n'était pas dans une permanence du Parti Socialiste, mais dans une permanence du Front National. La scène s'est passée à Vesoul, en Haute-Saône, dans le nord-est de la France, un territoire déjà largement gangréné par le vote frontiste, et cette action n'a pas manqué de faire réagir et de faire sans doute aussi sourire certaines et certains dans cette chouette ville de Vesoul. Ce local avait été inauguré il y a peu de temps, il n'y a même pas un an, par Marion Maréchal Le Pen. Il avait été inauguré en avril 2016 et il permettait au Front National de disposer de sa première permanence dans ce département, qui est le département qui vote le plus Front National dans la région de Franche-Comté. Alors voilà, on rappellera qu'à Lyon, sans aucun lien bien sûr, le Front National dispose de bureaux à Perrache, à côté de la brasserie Georges. C'est là où vous attendez votre covoiturage pour partir vers le sud. Voilà. Et puis les locaux du Front National peuvent parfois perdre leur vitrine, et dans d'autres villes, comme à Grenoble par exemple, il y a des commissariats qui brûlent.
Oui, alors, enfin, qui brûle.
C'est un grand mot, oui.
En fait, on s'est un peu trompé, mais... mais par contre, comme les locaux du FN, y a eu le nouveau bureau de police donc de la Villeneuve à Grenoble, qui a fermé il y a quelques jours, parce qu'il avait eu quelques petites... il avait été un peu mis à mal. Donc ça s'est passé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, donc un mois juste après l'ouverture. Donc on peut dire que l'année commence plutôt bien pour Villeneuve à Grenoble. Et donc c'est avec des grosses pierres et un clou en fer que plusieurs personnes ont souhaité la bonne année donc à ce commissariat de la police. Donc les baies vitrées et la porte coulissante ont littéralement sauté de joie avec fracas. Donc pour être un peu de la fête. Donc et par contre les flics qui eux n'étaient pas invités à cette joyeuse fête étaient un peu vénères et malheureusement ils ont pu choper un jeune mineur qui était présent sur les lieux, qui admirait la beauté du spectacle. Et il a d'ailleurs confirmé lors de sa garde à vue, donc sa garde à vue de nouvel an, qu'il se trouvait simplement aux abords des lieux et qu'il avait salué les joyeux fêtards. Et il a ajouté que vu que c'était un bal costumé, il était difficile de les reconnaître. Donc quand même, ce jeune homme a été toutefois remis en liberté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de cette petite action. Et actuellement, le bureau de police est toujours fermé, puisque jusqu'à ce qu'il répare cette fameuse, les baies vitrées, et puis aussi la porte, puisqu'elle ne peut plus s'ouvrir, donc voilà, on ne peut plus rentrer. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle.
« cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Zamago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Levantou de mim pra cima de moa, já me mané.
Retour à l'antenne de Radio Canu. Et là, on va
C'était juste pour dire ce qu'on vient d'écouter avant d'aller à Tours. Avant d'aller à Tours, c'était juste pour dire qu'on était au Brésil et qu'on vient d'écouter une chanson qui s'appelle Maria da Vila Matilde de Elsa Soares. C'est une chanteuse afro-brésilienne. Et cette chanson, c'est une chanson qui dénonce les violences conjugales et les violences sexistes que les femmes subissent. Assez régulièrement. Et du coup, maintenant, on va à Tours.
Ouais, mais toutes mes excuses pour t'avoir coupé la parole. Alors, du coup, on va partir à Tours. On va parler du foyer Albert Thomas. Donc, Albert Thomas, c'est le nom d'un foyer d'hébergement de 36 places situé à Tours qui doit fermer en raison de la liquidation judiciaire de l'association qu'il gérait. Une fermeture que les résidents et les salariés ont appris brutalement le 21 décembre. Elle devait être effective le 26 décembre, mais les résistants et les salariés se mobilisent de manière différente et ils occupent actuellement les lieux, organisent des manifestations pour essayer de faire bouger les pouvoirs publics. Et donc, comme la semaine dernière, on va faire un point au téléphone avec un camarade de Tours. Salut, salut, est-ce que tu nous entends ? Allô ? Allô, allô ? Est-ce que tu nous entends ?
Ben non, on dirait pas.
Allô ?
Peut-être parler fort dans le micro.
Ouais, je parle très fort dans le micro. Est-ce que tu m'entends là ? Allô ?
Allô ?
Ouais, tu nous entends ?
Très très faiblement, mais oui.
D'accord. D'accord. Est-ce que si je fais ça, t'entends mieux là ?
Oui.
Ouais, écoute, du coup, là, j'ai. On a un petit peu introduit du coup le point sur Albert Thomas. Est-ce que tu peux dire un petit peu, juste faire un tout petit rappel de la situation dont on a déjà un peu parlé la semaine dernière, s'il te plaît ?
Un petit rappel factuel de l'origine du problème ?
Ouais, ce serait super.
Donc, le foyer Albert Thomas est un foyer d'hébergement d'urgence situé à Tours, rue Albert Thomas, qui était géré donc par une association donc qui s'appelait donc l'association Albert Thomas, association qui recevait donc des fonds de la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, donc de l'État, pour son activité d'hébergement d'urgence. Cette association accueille donc un public assez varié, aujourd'hui composé majoritairement de personnes issues de différentes migrations, donc des demandeurs d'asile principalement, et des gens du droit commun aussi. Voilà, les dirigeants de cette association donc pendant plusieurs années ont eu une gestion assez calamiteuse de l'association qui a été vraiment invisible durant ces années, jusqu'à ce qu'ils prononcent la liquidation de leur association et que l'affaire soit rendue publique par les salariés qui ont été prévenus de leur licenciement par texto. L'un d'entre eux était par exemple en vacances. Voilà, donc on a là-dessus, il y a eu une mobilisation qui s'est formée autour de cette annonce, qui a dénoncé d'abord le fait que la DDCS et les autorités compétentes n'aient pas contrôlé la gestion de l'association et qu'il est aberrant qu'on en soit arrivé là, et que le lieu soit au milieu de cette fermeture, à savoir le lieu donc comporte 36 résidents au sein du foyer, mais le lieu gère également des appartements qui accueillent une trentaine de personnes, dont des familles, des femmes avec enfants et des mineurs isolés. Voilà, aujourd'hui, donc, les salariés ont été licenciés. Le foyer, depuis l'annonce de la liquidation, a été occupé par les résidents et un comité de soutien s'est formé. Les autorités ont demandé aux résidents du foyer de se rendre dans un gymnase, le gymnase Paul Racco, un gymnase qui a été vaguement équipé pour recevoir en urgence donc ces personnes. Cette proposition a été refusée par les résidents, qui refusent de se rendre dans un gymnase à cette période de l'année, d'autant plus dans des conditions d'accueil qui ne sont pas dignes, conditions d'hébergement qui ne sont pas dignes, ni pérennes, sachant qu'il y avait un flou complet après le 2 janvier, et qu'il n'y avait pas de solution proposée d'hébergement après le 2 janvier. Voilà, donc un blocage a été organisé, un comité de soutien s'est monté, et de nombreux soutiens ont afflué depuis, et affluent encore tous les jours, soutien d'habitants, d'associations, de syndicats, et de différents horizons, d'abord locaux, puis maintenant nationaux.
D'accord. Et du coup, là, cette semaine, je crois qu'il y a eu pas mal d'actions, il y a eu des manifestations. Je crois que vous êtes allé jusqu'à la mairie. Comment ça se passe, les rapports avec les pouvoirs publics ? Est-ce que vous arrivez à gagner des choses, là ?
Alors, excusez-moi, mais je n'entends plus du tout les questions.
Ouais, je disais, cette semaine, il y a eu pas mal de mobilisations. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé cette semaine ? Et notamment, je crois que vous êtes allé à la mairie, les rapports avec les pouvoirs publics.
Voilà, donc il y a eu récemment deux mobilisations, une première lundi, une deuxième ce jeudi. Deux manifestations donc qui sont parties du foyer pour se rendre à la mairie et puis ensuite donc à la préfecture pour la première mobilisation. Ces manifestations donc ont eu un franc succès auprès de la population qui a afflué vers le foyer. La première manifestation comptait une bonne centaine de personnes. La deuxième un tout petit peu moins parce que donc c'était la rentrée. La rentrée étant passée, les gens sont tournés au boulot. Le chiffre peut paraître un peu dérisoire, une centaine de personnes, mais pour cette mobilisation-là, c'était assez important. Ça nous a permis en tout cas de créer un rapport de force avec les autorités. Pour autant, à la mairie, quand on est arrivé, les deux fois, les portes ont été fermées avant qu'on arrive. Ils ont carrément fermé les portes avec des cadenas. Yeah. Les photos sont assez amusantes. Là, donc, il y a eu un sitting de fait devant la mairie avec des demandes d'entretien simple avec le cabinet, quoi, juste pour échanger très simplement en bonne et due forme. Là-dessus, on a essuyé deux refus successifs lors des deux manifestations. La deuxième fois, le responsable de la sécurité de la mairie est sorti pour demander aux résidents d'aller au gymnase Paul Racco. Et il a répété en boucle qu'il était en mesure de répondre à quoi que ce soit, parce que voilà, sa position ne lui permettait pas de dialoguer. Donc voilà, il envoie, comme d'habitude, quelqu'un qui n'est pas compétent pour dialoguer et qui répète simplement ce qui a été dit une dizaine de jours avant. La première fois, on s'est rendu cet aspect-là à la préfecture, et par chance, on est arrivé au moment où la barrière de la préfecture s'ouvrait pour laisser sortir une voiture. Donc on est rentré sans même forcer la porte, la barrière étant ouverte. Il y a une pointe de l'agent du dispo, mais le cortège est tout à fait pacifique et voilà, avec des revendications tout à fait cordiales, bien que les slogans étonnés dans la cour de la préfecture. Un responsable a dû se manifester, donc on a rencontré malheureusement qu'un stagiaire, encore une fois, donc un stagiaire ENARC, enfin un stagiaire de l'ENA, qui était donc dépêché par le préfet, par le bureau du préfet, qui a reçu en main propre une demande de rendez-vous, sachant qu'il avait déjà eu des demandes d'envoyer, mais qu'il n'avait pas eu de réponse. Voilà, donc là, la personne a reçu en main propre une demande de rendez-vous et s'est engagée à recevoir une délégation. Suite à cela, on a reçu il y a quelques jours un mail, donc toujours pas de courrier ni personne qui vient au foyer. Il faut savoir que depuis que l'annonce a été faite aux salariés par texto, aucun représentant de l'État ne s'est déplacé au foyer ou pour rencontrer des salariés. Personne de la ville, personne de la préfecture, personne de la DDCS ne s'est déplacé pour un quelconque dialogue. Voilà, donc suite à cette obligation, on a reçu un mail de la préfecture demandant le nom et prénom des personnes qui se présentent à ce rendez-vous et le motif écrit de ce rendez-vous. Donc voilà, là-dessus, ils ont pu gagner encore quelques jours. Et on attend à ce jour une réponse, sachant qu'on leur a transmis évidemment ces informations, et donc on attend maintenant la date du rendez-vous afin de rencontrer le préfet ou ses représentants. À ce jour, le foyer est toujours occupé. La mobilisation a grossi. On a reçu encore aujourd'hui 4 soutiens importants locaux. Et on a donc eu des informations plus précises sur les appartements qui avaient été scindés de la lutte habilement par la DTCS, sachant que la mobilisation était axée principalement sur le foyer, alors que l'association gérait, comme je l'ai dit, des appartements qui accueillent donc des familles et des mineurs isolés. Mais la DDCS a habilement scindé ces deux entités en demandant à l'entraide de gérer pendant quelques temps les appartements. Il faut savoir que l'entraide gérait déjà
l'entraide ouvrière
en partenariat avec Albert Poma des appartements, et donc que cette aide a été naturelle. L'entraide là-dessus n'a pas grand chose à se reprocher, et qu'il y avait un soutien en personne qui était légitime. Pour autant, là on est en train de mobiliser les gens qui sont hébergés dans les appartements, qui sont laissés également pour compte, qui n'ont plus d'allocation, sachant que c'est l'association Albert Poma qui versait des allocations à ces personnes. Et donc qu'on passe de 36 personnes défendues à aujourd'hui 72 personnes qui sont menacées avec un avenir complètement incertain, qui n'ont pas été informées des suites de la liquidation et qui sont aujourd'hui menacées on ne sait même pas quoi en fait. Le gymnase a été une solution qui était clairement refusée. Et l'avenir est encore complètement flou face au silence et à la surdité des pouvoirs et publics et des autorités compétentes.
D'accord, mais on espère en tout cas que vous allez réussir à faire bouger ces autorités, que vous allez réussir à gagner un petit peu plus. Je précise juste pour les Lyonnais que l'entraide ouvrière, en fait, c'est une association qui participe en fait à gérer l'hébergement d'urgence. Écoute, je crois qu'on t'appelle en direct de l'AG. Actuellement au foyer Albert Thomas, on va peut-être, si tu peux me dire en 30 secondes, c'est quoi les perspectives aujourd'hui qui se dessinent?
Alors excuse-moi, j'ai compris juste que tu disais qu'on était en direct de l'AG, mais j'ai pas compris le reste, la connexion est très mauvaise.
Ouais, je suis désolé, juste si tu peux dire en trois mots, c'est quoi les perspectives et ce qu'on vous souhaite pour ce soir?
Alors ben là oui, en effet, on est en plein AG. Les perspectives pour ce soir, donc il y a déjà d'autres journées de mobilisation qui sont prévues, à savoir jeudi prochain, une journée assez importante de mobilisation qui sera donc en fin de journée au départ de la place Anatole France. Également, on est en train de débattre ce soir de l'organisation d'une journée porte ouverte, sachant que dans le quartier ici, donc la rue Albert Thomas se prolonge par la rue Colbert, et que dans cette rue Colbert, on a également un lieu d'accueil qui s'appelle La Barque, qui est un lieu social qui est menacé de déménagement et qui s'est fait squeezer donc ses subventions par la ville, qui a vu ses budgets amoindris. Et on, clairement, il y a une volonté de faire déménager ce lieu d'accueil qui répond à des besoins de d'accueil un peu de jour, quoi, qui accueille des personnes. C'est un lieu de vie vraiment pour personnes en difficulté, un lieu de vie qui est vraiment chouette, et qui est menacé de fermeture aussi d'ici quelques mois. Et la poste de la rue Colbert a aussi été menacée de fermeture il y a quelques temps. Ça a failli fermer et il y a eu un revirement de la mairie suite à des pressions importantes des habitants qui sont mobilisés. Et donc on est en train de débattre en ce moment même afin de savoir si donc on organise une journée porte ouverte festive pour que les habitants du quartier puissent sortir un peu de chez eux et pénétrer vraiment les différents lieux qui sont menacés et échanger autour de ces différentes menaces, de ces différentes fermetures annoncées, pour essayer de mettre un peu de lien dans tout ça, essayer de que les habitants discutent entre eux, et tout ça dans une ambiance un peu festive, afin de faire converger un peu les luttes.
Ouais, très bien, super. On espère que ça va prendre dans le quartier. Écoute, on va te laisser retourner à l'AG. Je te remercie beaucoup de nous avoir tenu au courant de ce qui se passe, et puis écoute, tous nos vœux de courage aux personnes qui se mobilisent à Tours.
Merci à vous, je transmets, et merci encore pour le sujet et pour le relais sur ces infos.
C'est bien normal. À bientôt.
Et voilà, du coup, après cet insert téléphonique qui s'est remarquablement bien passé, et on remercie encore le camarade Tourangeau d'avoir bien voulu prendre du temps en plein milieu de l'AG pour nous expliquer ce qui se passe dans le centre, autour du centre Albert Thomas. On va aller du côté de Sifour-les-Plages, dans le Var, où un maire opposé à la tenue de cours d'arabe dans une école envoie la police municipale. Alors, tout est parti d'une rumeur. Il y a 2 mois, la commune de Sifour-les-Plages, donc dans le Var, était agitée par une polémique sur des prétendus cours d'arabe obligatoires. Un fantasme qui a généré un combat juridique entre la mairie et l'État. Depuis la fin du mois de septembre, la commune de Sifour-les-Plages dans le Var est le théâtre d'un combat juridique autour de l'enseignement de la langue arabe à l'école. Dans un camp, le député maire Jean-Bastien Vialat, dans l'autre, l'État, représenté par la préfecture. Le champ de bataille, l'école Régnier, où la police municipale a débarqué pendant un cours. Et l'origine du conflit, une rumeur. Tout commence le 25 septembre, quand une mère publie sur Facebook une photo du carnet de correspondance de sa fille, scolarisée à l'école primaire Régnier. À l'intérieur, un mot qui invite les parents à indiquer s'ils veulent inscrire leurs enfants à des cours de langue arabe. Et du coup, qu'est-ce qu'elle écrit cette mère? Devoir signer les papiers sur le carnet de liaison pour l'enseignement de la langue arabe en primaire. Ça y est, encore un cap de franchi. Alors du coup, comme elle a écrit ça et qu'elle l'a publié sur Facebook, ça a déclenché un mouvement de panique générale. C'est une publication qui a largement été partagée, et l'idée selon laquelle ces cours seraient obligatoires véhiculés. Rien de tel en réalité. Comme le montrait au moment de la polémique un article des Décodeurs, le cours en question s'inscrit dans le système d'enseignement de la langue et de la culture d'origine, dit ELCO. Créé en 1997, il visait à l'origine à scolariser les enfants des travailleurs migrants, comme l'explique aussi le ministère de l'Éducation. Le principe qui fonde ces enseignements à l'origine est que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d'une langue seconde, développe du coup le ministère sur son site. La France a donc passé des accords avec 9 pays, l'Algérie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie, qui recrutent et payent des professeurs pour dispenser ces cours. Destinés aux enfants originaires de ces pays, ils sont proposés à partir du CE1 à titre optionnel, à raison d'1h30 à 3h par semaine. Interrogée du coup par les Décodeurs, la direction de l'école Régnier expliquait « Nous disons simplement aux élèves qui peuvent être concernés de lever la main pour qu'on leur distribue un papier. Rien n'oblige donc personne à prendre le papier en question et à le remplir. » Une nouvelle fois, les parents Des élèves de l'école primaire Régnier à Sifour ont reçu un document afin qu'ils procèdent à l'inscription de leurs enfants à des cours d'arabe. S'indignait pourtant la Fédération FN du Var, ne s'embarrassant visiblement pas du tout du réel. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Jean-Bastien Vialat, député maire de Sifour-les-Plages, d'envoyer une lettre à l'inspecteur de l'Académie de Nice, expliquant « Je ne signerai pas l'affiche qui autorise l'intervention de cours de langue arabe pendant le temps périscolaire, période dont j'assume l'entière responsabilité. » En effet, dans un rapport datant de 2013, le Haut Conseil à l'intégration remettait en cause ces enseignements, allant jusqu'à affirmer que certains cours s'apparenteraient à des catéchismes islamiques. Donc là, je cite le député maire Jean-Sébastien Vialat. Si de nombreux acteurs de l'éducation nationale estiment que ces accusations ne tiennent pas la route, évidemment, et que du coup, c'est plutôt au contraire des cours qui sont valorisés et qui essayent de se développer dans de nombreuses écoles primaires. Deux mois après, le 24 novembre, alors que la polémique semblait avoir cessé d'agiter parents d'élèves, politiques et médias, la préfecture du Var dépose un recours devant le tribunal administratif de Toulon, lui demandant de suspendre la décision du maire de s'opposer à l'utilisation des locaux de l'école pour les cours. La décision rendue par le tribunal permet de comprendre pourquoi la préfecture a décidé d'envisager une bataille deux mois plus tard. À sa lecture, on apprend en effet que le maire a fait intervenir la police municipale à l'école au moment où les cours étaient prévus. La première fois, le 18 novembre, il constate que le cours n'a pas lieu. La seconde, le 25, il remet au professeur un pli du maire. Et donc, comment le maire se justifie d'avoir envoyé la police municipale au sein de l'école primaire? Le maire dit donc « Je n'avais pas d'adresse ni de téléphone pour le joindre. Je n'avais donc pas d'autre moyen que de faire porter le pli par la police municipale. » Raconte vraiment sérieusement à Libération Jean-Sébastien Vialat. « J'explique que pendant le temps périscolaire, il n'a pas à rentrer dans l'école sans l'accord du maire. » Sauf que, comme le rappelle le tribunal administratif, ces cours relèvent de l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. Le maire n'a donc rien à dire sur l'utilisation des locaux de l'école. Il doit les mettre à disposition. Point. Ou presque. Car le tribunal explique aussi que le refus du maire de signer la fiche d'installation au professeur n'a pas empêché la tenue du cours. Pas plus que l'intervention de la police. En bref, le tribunal considère que le maire a seulement fait état de son refus de signer la fiche d'installation et que ce refus n'entraîne pas l'interdiction d'accès aux locaux. Et pour cause, il n'en a pas le pouvoir. La justice administrative reprend ainsi la ligne de défense de la mairie. Cette dernière considère en effet que son refus de mettre l'école à disposition n'était que déclaratif, n'empêchait pas la tenue des cours. On peut y voir de la mauvaise foi, puisqu'on peut supposer que dans ces conditions, le prof est à minima découragé, ou l'aveu d'une opération de communication, puisque la mairie admet qu'elle a fait tout ça en sachant qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le sujet. Toujours est-il que le tribunal, tout en rappelant que la mairie n'a pas son mot à dire, a rejeté le recours de la préfecture. Fin de l'histoire, ce serait trop facile. Le 8 décembre, Jean-Sébastien Vialat va plus loin en interdisant par arrêté les cours à l'école sur le temps périscolaire quand ont lieu les ELCO. Donc quand a lieu ces cours d'arabe, comme il n'arrive pas et qu'il n'a pas en fait le droit d'interdire uniquement ces cours-là, il va interdire tous les temps périscolaires. Il pense en effet avoir trouvé une faille. Si l'État est responsable du temps scolaire, c'est la mairie qui l'est pour le temps périscolaire. Ce n'est pas une question de politique anti-arabe, mais une question de définition de la responsabilité des uns et des autres, assure du coup toujours ce même maire qui a été condamné en 2014 à 2000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale. C'est la défense de la liberté des collectivités à s'administrer qui est en jeu. On a proposé des cours d'arabe, mais j'aurais fait pareil pour une autre langue. Continue du coup toujours ce même maire. Libre à l'État d'organiser les ELCO, donc toujours ces cours, pendant le temps scolaire, explique-t-il. Ce qui signifierait que les élèves assistant aux cours d'arabe rateraient donc les autres cours. Donc c'est impossible, puisque les ELCO ne peuvent être dispensés qu'en supplément et non en remplacement, évidemment, de l'enseignement en primaire. Jean-Sébastien Vialat joue en fait sur les mots, en laissant penser que le temps scolaire est une question d'horaire. Comme si à 16h30, à la fin de la journée d'un écolier, on passait directement dans le domaine périscolaire. En réalité, le temps scolaire définit tous les moments dédiés à l'enseignement dont l'État est responsable, enseignement dont font partie les ELCO, du coup les cours d'arabe. Et c'est quand même vraiment hallucinant en fait qu'un maire se donne le droit d'utiliser la police municipale pour inciter à la haine raciale et empêcher la tenue de cours qui sont tout à fait légaux. Voilà, c'était pour vous montrer ce qui se passe dans l'Académie de Nice.
On va voir tout de suite ce qui se passe à l'étranger.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et en information internationale, on va partir du côté de l'Algérie et même plus précisément de la Kabylie, puisque des heurts ont éclaté toute la semaine entre manifestants et forces de l'ordre dans la ville de Béjaïa, à 250 km à l'est d'Alger. Et Béjaïa, c'est donc l'une des plus importantes villes de Kabylie. Les affrontements se sont ensuite étendus aux localités voisines et ont repris toute la semaine, donc jeudi et vendredi, et donc aujourd'hui aussi. Routes barrées, bâtiments officiels incendiés et magasins pillés ont émaillé ces journées de violence. Et pourquoi il y a eu ces journées de violence ? Ben, les mécontentements en Kabylie sont nombreux et séculaires. Et pour le coup, ici, en janvier 2017, ces émeutes interviennent sur fond de contestation de la loi finance qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Et une grève générale des commerçants également est venue s'ajouter aux revendications. Et enfin, la question du prix de la vie. C'est donc qu'on a eu des manifestations liées à la vie chère. Voilà. Alors ces manifestations, comme je l'ai dit, ont été ressenties beaucoup en Kabylie, mais on va voir qu'elles ont eu lieu également dans d'autres régions d'Algérie, et même dans la capitale, où le quotidien algérien TSA, se fait l'écho d'une nuit d'inquiétude et de rumeurs, notamment le mardi soir. Le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bédoui, a affirmé de son côté que les services de sécurité maîtrisent la situation. Et selon les correspondants de la BBC, c'est une dépêche qu'on reprend à Libération ici, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de blessés pendant toute la semaine. Alors on va revenir en détail sur ce qui s'est passé de lundi à jeudi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'avait pas vraiment les informations quand on a préparé ce Canu Info. Ça a commencé donc lundi 2 janvier à Béjaïa, l'une des plus grandes villes, comme je vous disais, de la Kabylie. Et des affrontements ont eu lieu avec des flics, des voitures et des façades d'immeubles ont été attaquées. Et les petits commerçants et les détenteurs du marché se mirent à Béjaïa en grève générale, donc contre l'augmentation des impôts et le contrôle étatique. Le nouveau QG de l'Académie et même une banque de la BNP ont été détruits. Pillés. On a aussi pu voir des barricades en feu, des mini-autobus brûlés et une camionnette anti-émeute retournée. Enfin, les bureaux locaux de la Société Nationale des Tabacs et des Allumettes et un magasin électroménager ont également été pillés. À Chorfa, dans la même région de Kabylie, donc plutôt dans les terres, hein, Béjaïa c'est sur la côte, à Chorfa donc un poste de police a été défoncé, à Tichy un autre poste de police a été attaqué, donc toujours dans la même région, en Kabylie, à Amizour une grande route était barricadée et coupée, à Bouira, les flics ont été attaqués, et à Sidi Aïch un autre poste de police a été lapidé. Enfin, à Ain Bednaïan, on a pu voir d'autres barricades enflammées. C'est donc toutes ces descriptions qu'on a retrouvées dans la presse kabyle font état d'un climat qui semble clairement insurrectionnel depuis lundi. Ça se poursuit le lendemain, le mardi 3 janvier. On retourne à Béjaïa, donc c'est une de ces grandes villes kabyles. Là encore, mardi, les routes sont barricadées, quelques édifices gouvernementaux sont brûlés et à nouveau des magasins sont pillés. Dans diverses petites villes et communes qui s'étaient précédemment abstenues de se mettre en grève s'impliquent cette fois-ci le mardi donc dans ces grèves et suivent le mouvement entamé à Béjaïa. Les routes principales là aussi sont bloquées et ont fait brûler des pneus, des troncs d'arbres, etc. pour manifester la joie de la manifestation. Pour manifester cette joie également, des gendarmes sont attaqués dans plusieurs zones de Kabylie. Alors, ces insurrections inquiètent fortement à ce moment-là les autorités tunisiennes qui décident, dans la région du Kef, de fermer la frontière tuniso-algérienne. Pourquoi les autorités tunisiennes font ceci ? Ben parce qu'elles ont peur d'une contagion, puisque le même mardi, des manifestations ont eu lieu à Kasserine en Tunisie, pas loin de l'Algérie. Et là aussi, en Tunisie, on a pu observer des affrontements pendant une manif de travailleurs de chantier qui ont bloqué aussi des routes, etc., etc. Donc les autorités tunisiennes ont eu peur que des solidarités se créent par-delà la frontière tuniso-algérienne. algérienne. Et on revient tout de suite en Algérie avec une autre voix, parce que c'est mieux pour l'auditeur et l'auditrice.
Et oui, puisque les protestations et émeutes contre la cherté de la vie provoquées par les nouvelles dispositions de la loi 2017, donc comme on vous le disait, se sont encore poursuivies dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa. Ces manifestations ne restent
alors,
pas...
La wilaya, c'est la région.
De Béjaïa, c'est la ville. Et oui. Mais ces manifestations ne restent pas cantonnées à des villes de la Kabylie, puisque des protestations ont également éclaté à Tiaré et à l'ouest du pays. Tiaré a effectivement vécu une soirée très agitée. Des centaines de manifestants en colère se sont rassemblés devant le siège de l'antenne de l'état civil pour manifester leur colère contre la loi de finances 2017. Dans d'autres quartiers gagnés par la colère, les habitants ont commencé à fermer une après l'autre les principales artères de la ville. Les émeutiers ont caillassé des voitures de police, bloqué la route et brûlé des pneus. Des affrontements ont opposé les forces de l'ordre à des jeunes manifestants. Bombes lacrymogènes d'un côté, jets de pierre de l'autre, odeurs de pneus et de bois brûlés dans l'air, arrestations musclées, sirènes hurlantes, la ville de Tiaré a été ébranlée par une nuit à l'odeur insurrectionnelle. Des violences qui ne se sont pas estompées en Kabylie non plus notamment. Dans la wilaya de Béjaïa, là où sont parties lundi les premières manifs, des manifestations nocturnes ont été signalées à Agbou, plutôt dans les terres, où des émeutiers ont tenté de s'en prendre à la recette des impôts de la ville.
Ça, c'est pas con.
Ouais, c'est malin. Et aussi à l'agence Sonelgaz. Et ça, c'est la compagnie de gaz algérienne.
Une des compagnies de gaz algérienne.
Ah, une des compagnies, ok. Et ces affrontements ont donc duré, donc c'était dans la nuit de mardi à mercredi, jusqu'à 2h du matin.
Et on reprend le fil de ces manifestations et émeutes algériennes avec le mercredi 4 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi ? Eh bien, pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures, des jeunes manifestants ont bloqué, mercredi après-midi, l'autoroute Est-Ouest à la hauteur de la localité d'El Abidja à Bouira, donc là aussi en Kabylie. Et ils ont bloqué comment cette autoroute ? Ben, à l'aide de pneus en flammes, de barrières métalliques et autres objets hétéroclites qu'ils avaient pu trouver. La circulation a été perturbée pendant plus d'une heure. Cette portion d'autoroute avait déjà été bloquée la veille par des dizaines de jeunes et les éléments de la brigade de gendarmerie avaient à ce moment-là, donc c'était le lundi, arrêté 8 personnes lors de l'escarmouche. Et des escarmouches ont également été enregistrées mardi soir dans la commune de Saharidj, là aussi en Kabylie. Des manifestants, là encore, avaient assiégé le siège de la brigade afin d'exiger la libération d'un jeune. Donc des manifestants vont autour du comico, pour le dire simplement, exigeant la libération d'un jeune qui avait été arrêté par la police. Et là, les gendarmes n'ont pas répondu au jet de pierre et ils ont préféré libérer la personne qui avait été appréhendée. Bravo les gars et les filles.
Ensuite, à Béjaïa, donc la plus grande ville de cette région, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont occupé un plus grand espace en s'étendant à d'autres quartiers. La tension a failli prendre aux alentours des cités universitaires. De nombreuses arrestations ont été opérées parmi les manifestants et se sont poursuivies hier, donc hier jeudi.
Exactement.
D'accord. Même après le retour au calme. À Agbou, des témoins rapportent que des éléments de la BRI, en ronde avec plusieurs de leurs 4x4, ont embarqué plusieurs jeunes qui étaient en groupe dans différents endroits de la ville. Mais il semble que le gros des arrestations a eu lieu dans la ville de Béjaïa. On avance le nombre de centaines de personnes arrêtées par la police. Au niveau de la sûreté de la wilaya, on ne veut pas communiquer. On n'a pas terminé toutes les procédures, répond au journaliste un présupposé de la cellule de communication. Il serait quelques centaines de jeunes à avoir fait l'objet de PV d'audition, dont certains auraient été raflés abusivement. Pour éviter de se faire embarquer, les émeutiers ne se font pas soigner dans les structures de santé. Lorsqu'ils le font par urgence, ils prennent le soin de ne laisser aucune trace de leur passage. Les services du CHU n'ont enregistré aucune admission parmi eux. Le bilan que les journalistes ont pu avoir par l'intermédiaire de la cellule de communication du CHU fait juste état de 26 policiers blessés, dont presque la moitié lors de la première journée d'émeute.
Voilà pour ce bilan de la semaine. Et alors, après toutes ces émeutes, les partis de l'ordre pardon, et autres syndicats n'ont pas manqué de réagir, ces ennemis habituels des révoltés. Alors, Le ministère des Affaires religieuses a notamment adressé en urgence une circulaire aux imams des différentes mosquées du pays. Et cette circulaire rappelle qu'il faut, dans les mosquées, condamner la violence lors de leur prêche du vendredi, condamner la violence des émeutiers. Donc ça, c'est ce que demande le ministère des Affaires religieuses aux imams, et on rappellera que cette réaction du ministère des Affaires religieuses n'est pas anodine, et puis elle accompagne un petit peu l'avis de plusieurs leaders du mouvement salafiste en Algérie, qui déclaraient et qui ont même rédigé qui déclaraient leur hostilité à l'encontre des émeutiers et plus globalement des manifestations, et qui ont même rédigé une fatwa dans laquelle ils ont déclaré que faire la grève et manifester était haram, c'est-à-dire interdit en islam, et faisait partie des habitudes des koufars, c'est-à-dire des mécréants. De plus, les émeutes ont été donc condamnées par certaines institutions religieuses à l'invitation du ministère des Affaires religieuses. Les émeutes ont également été condamnées par des partis politiques de la gauche locale, mais ça, c'est pas vraiment étonnant. Tous disent vouloir la transition démocratique. On est quand même au quatrième mandat de Bouteflika, hein. Mais ils veulent cette transition démocratique sans violence. Enfin, quelques gros syndicats se sont joints à la dénonciation des violences, notamment celui des profs, enfin l'un de ceux des profs le plus important, et le SNAPAP, qui est très actif dans tous les secteurs de la fonction publique, c'est le nom d'un syndicat, a dénoncé lui aussi ces violences, accompagné en ceci par la plupart des intersyndicales, qui ont même annulé la grève qui était annoncée jeudi, en raison de ce qu'ils appellent la détérioration de la situation à Béjaïa. Voilà pour le point de la semaine sur ces émeutes algériennes.
Ouais, c'est quand même marrant, quand même, dans tous les pays du monde, les institutions religieuses, les partis de la gauche dite progressiste et puis les grosses centrales syndicales réformistes, en fait, ils sont toujours contre le peuple.
Ouais, ouais, ouais. Notamment quand celui-ci décide de ne pas prendre les formes de manifestation traditionnelles.
Et on part tout de suite aux États-Unis.
Et oui, on va vous parler des problèmes d'accès aux soins quand on est en prison. Hier, en fin d'après-midi, le juge fédéral Mariani a ordonné à l'administration pénitentiaire de Pennsylvanie d'accorder immédiatement à Mumia Abul-Jamal le traitement contre l'hépatite C dont il souffre, justifiant sa décision en ces termes « Les contrats budgétaires ne peuvent pas l'emporter sur la garantie constitutionnelle de soins médicaux adéquats ». Et alors, pourquoi est-ce que la justice fédérale a dû écrire ça et donner une injonction à l'administration pénitentiaire? C'est que, jusqu'ici, l'administration pénitentiaire refusait d'apporter des soins à Mumia Abul-Jamal pour son hépatite C. Ainsi, un an et demi après une hospitalisation suite à un coma diabétique qui faillit être fatal et des séquelles extrêmement douloureuses, les mobilisations dans le monde entier et les batailles juridiques ont eu raison de l'inhumanité de l'administration. Par la voix de Brett Grott, de l'Abolition Land Center et de Maître Robert Boyle, la défense de Mumia s'est félicitée de cette grande victoire remportée par les milliers de gens qui ont soutenu Mumia et sans lesquels on ne pouvait imaginer gagner. Cela a quand même exigé deux procès, des milliers d'heures à rédiger des motions, à interpeller l'administration par des rassemblements, des manifestations, des coups de téléphone, des mails... Et des pétitions. On a un micro qui est tombé en studio. Pour revenir du coup à l'administration pénitentiaire de Pennsylvanie, gagner ce jugement était un enjeu majeur, car il fallait apporter la preuve que tout retard de traitement causerait des dommages irréversibles pour Mumia et les 6000 prisonniers de Pennsylvanie souffrant d'hépatite C qui n'étaient pas soignés. Selon Brett Grott, c'est la première fois qu'aux États-Unis, une cour fédérale oblige la pénitentiaire à faire bénéficier les prisonniers de nouveaux médicaments mis sur le marché pour éradiquer cette grave maladie. En août dernier, lorsque le juge Mariani rejeta la première requête, l'inquiétude fut grande. La colère redynamisa toutefois la mobilisation, à l'exemple des 130 000 dollars collectés par les soutiens du monde entier pour la poursuite de la bataille judiciaire et les soins médicaux dont Mumia avait besoin. Le collectif français des soutiens à Mumia, par ses initiatives et celles des nombreuses organisations qu'il rassemble, se félicite d'avoir contribué à cette victoire du droit au respect de la vie humaine. Une pause de la mobilisation ne saurait toutefois être de mise, car l'administration pénitentiaire va vraisemblablement interjeter appel. Il nous faut donc maintenir la pression. C'est la raison qui justifie le rassemblement à Paris chaque premier mercredi du mois, à proximité de l'ambassade des États-Unis, pour qu'enfin Mumia soit soignée et libérée. Du coup, voilà, cette petite brève pour vous rappeler que la question des droits est quelque chose d'extrêmement dur en prison. Vous avez d'autres émissions de Radio Canu, comme par exemple La Petite Cuillère le jeudi soir, qui vous en parle. Et que aussi, c'est assez hallucinant de voir ça, mais que Moumia a pu être soignée que parce qu'aussi il y a une énorme mobilisation dans le monde entier qui a poussé la justice à devoir prendre position, mais que c'est vraiment pas quelque chose ni de spontané, ni d'acquis, en tout cas aux États-Unis.
Comme quoi, des fois, la mobilisation, ça paye, et des mobilisations, on va vous en parler tout de suite dans l'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et oui, agenda. Oula. Donc, on commence par un rassemblement antifasciste. Donc, demain, mais il y a une espèce d'écho. Non, c'est moi. Donc, qui a appelé donc demain à 15h, place Raspail. Alors, pourquoi un rassemblement antifasciste, me direz-vous?
Toujours une bonne idée.
C'est toujours une bonne idée. Et aussi, il faut savoir que ces derniers temps, ils ont été assez virulents. Donc, notamment, on pourra citer l'attaque très récente de la Plume Noire.
De Radio Canu.
On ne sait pas, mais c'est vrai que Radio Canu souffre de quelques, un peu comme le comico de, je vous ai dit tout à l'heure, de quelques bris de vitrine. Donc voilà, mais aussi il faut signaler que ils ont quand même plusieurs lieux publics, dont notamment un qui a ouvert dernièrement, qui s'appelle le Pavillon Noir, qui est une espèce de bar, qui vient s'ajouter donc à 6 autres locaux connus. Fasciste donc lyonnais, donc entre des boutiques et des salons de tatouage, donc voilà. Et aussi, il faut savoir que le 4 février, il y a le Front National qui va lancer officiellement sa campagne présidentielle, donc à Lyon. Et donc voilà, c'est un peu pour dénoncer tout ça, cette impunité qu'ils ont à commettre certaines actions, etc., etc. Donc voilà, donc si vous aussi vous avez envie de lutter contre ça, c'est rendez-vous 7 janvier à 15h, place Raspail, à la même heure. Et oui, il va falloir choisir.
La place Raspail, c'est à la Guillotière.
C'est à la Guillotière, c'est tout à fait.
Au niveau des quais, ouais. C'est au niveau des quais. Pas loin du bowl de skateboard, là.
Faut traverser la rue, quoi. Voilà. Et donc toujours un peu dans le même coin. Là, ça va se passer à la Griffe, à la même heure, à 15h. Et donc, il y aura une rencontre débat autour du livre Refuser de parvenir, donc publié par le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Et ensuite, toujours à peu près à la même heure, décidément, il y aura une journée de soutien à un squat privé d'Elec. Ça va être à partir, alors c'est pas vraiment la même heure, c'est à 16h, donc ça peut s'enchaîner avec le rassemblement place Raspail. Il y a des crêpes à 16h là-bas, et un dîner végétarien à 19h et un concert à 21h.
C'est où là-bas?
Et donc, ah oui, c'est là-bas, j'ai pas dit, c'est à l'autre côté du pont. Et donc voilà, c'est l'édition numéro 2, puisque la numéro 1 s'était passée à l'atelier des canulars, et c'était même très bien passé. Et donc voilà, et comme ils ont toujours besoin de sous, ils remettent le couvert, donc, mais en changeant d'endroit, au bar l'autre côté du pont. Donc voilà, et donc le concert, je vous dis quand même, le concert, c'est Bonk, voilà, qui est de l'électro-brasse. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur l'agenda.
Alors vendredi prochain, c'est un vendredi 13, et à 19h, vous savez ce qu'il y a vendredi prochain?
Non.
Le Canu Info du vendredi. L'autopromotion, ça coûte pas très cher.
Et en attendant, il n'y avait pas un autre truc à annoncer?
C'est un peu long, alors j'en reparlerai vendredi prochain.
Attends encore quelques secondes.
Donc vite fait, mais de toute façon c'est jusqu'au 16 février, c'est une expo. Enfin, un peu installation artistique, photographique, sonore, documentaire, tout ça sur 12 femmes. Et c'est à l'ITEM, l'atelier. C'est 3-1 passe Fernand Rey à Lyon dans le premier.
C'est dans les portes.
Un peu une plongée dans la vie de 12 femmes qui parlent d'elles, de leur vécu, etc. Et c'est un peu un truc, on y va, on peut écouter, les voir, enfin voilà, un peu un truc participatif. Et puis aussi un documentaire qui s'appelle Ouvrir la voie sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Et ça, alors, donc, y avait, ça passe le lundi 30 janvier au Périscope, mais c'est complet. Sinon, ça passe avant, jeudi 19 janvier, à partir de 17h à Lyon 2, à l'Université Lyon 2. Mais il faut s'inscrire. Donc, voilà, je vous incite à aller voir, enfin, si vous mettez ouvrir la voie dans Google, je pense que vous trouverez, ou à la fac, et s'inscrire avant, c'est gratuit. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, mais du coup, ça vaut le coup, je pense. Voilà. Et
d'ici là, c'est l'heure de Noise Pollution.
Pollution, tout de suite et maintenant.
Et jusqu'à vendredi, ne paniquez pas.
Et niquez tout.